les gens n'évoluent pas tant que ça. En fait, les technologies changent, mais les gens demeurent sensiblement les mêmes, peu importe qu'est-ce qui nous arrive. On pensait auparavant que meilleurs allaient devenir les outils, meilleurs allaient devenir les ordinateurs, plus on allait devenir intelligent parce qu'on allait pouvoir s'abreuver de ces connaissances-là et ça allait être notre premier réflexe, en fait, lorsqu'on allait avoir accès à toute cette connaissance-là. Mais en fait, ce n'est pas nécessairement ça qui se passe. On ne devient pas intelligent ou on n'essaye pas nécessairement non plus de paraître plus intelligent. On pensait que le web allait créer une intelligence collective et qu'on voudrait participer en montrant toujours le meilleur de soi. Entre autres, il y a un gars qui s'appelle Timothy Leary, que peut-être que vous connaissez. C'est un gars qui était très, très actif dans le mouvement hippie, Flower Power, tout ça, grand défenseur du LSD, professeur américain, il a fait de la prison aussi. Il croyait à l'intelligence collective du web jusqu'à sa mort, là, vers la fin des années 90. Il prenait pour acquis que tout le monde avait une soif de connaissance et de dépensement intellectuel de la même façon que lui l'avait. On a un peu tous tendance à faire ça, penser que les gens se servent des outils ou ont les mêmes buts dans la vie que nous, alors que c'est vraiment pas nécessairement le cas. Ce qu'il recherchait dans le web, dans le fond, Timothy Leary, c'est la même chose que dans le LSD dans les années 60. Il cherchait à ouvrir son esprit, avoir une plus grande conscience et connecté avec les gens en général. C'est vrai que le web nous permet de développer une intelligence connective, mais dans certaines applications particulières et que je dirais dans certaines exceptions, comme par exemple Wikipédia, c'est un bon exemple. On pensait aussi par le passé que si on se retrouvait à la télé, on s'efforcerait de paraître sous son meilleur jour, évidemment. Mais la plupart des études montrent que ça dure 10 à 15 minutes, que le naturel revient au galop et que les gens redeviennent naturels et parfois aussi cons qu'ils étaient avant que les caméras se mettent à tourner. C'est Andy Warhol aussi qui parlait du 15 minutes de gloire, que tout le monde allait obtenir son 15 minutes de gloire. Mais dans certains cas, c'est peut-être mieux comme ça que les gens aient seulement 15 minutes de gloire parce que si après 15 minutes, ils ne se montrent pas nécessairement sous leur meilleur jour, c'est peut-être une bonne chose que ça ne dure pas plus longtemps. Un autre exemple aussi, c'est les téléréalités. Qui prouve cette thèse-là. Dans les téléréalités, au début, les gens essayent de se montrer très gentils, tout ça, mais ça ne dure pas très longtemps. Il faut dire aussi qu'on choisit les participants de téléréalité parce qu'ils sont divertissants et pas nécessairement parce que c'est des gens extrêmement, extrêmement intelligents ou qui brillent par leurs connaissances incroyables. Facebook est aussi un très bon exemple que le web peut se montrer sous son meilleur jour, que le web peut nous montrer le meilleur et le pire de l'être humain. Ça me fait penser qu'avec le temps, on s'est peut-être trompé. On pensait que le web allait devenir un super outil, un outil d'ouverture de conscience, un outil d'intelligence collective. Et c'est pas nécessairement le cas, ça devient en ce moment de plus en plus un canal de divertissement, malgré que c'est un outil formidable qui nous sert à tous. On s'en sert de plus en plus pour se divertir. Et ce canal de divertissement-là remplace de plus en plus les autres canaux comme la télé, comme le cinéma, comme les rencontres personnelles et les interactions se passent beaucoup plus en ligne et la consommation de toutes ces formes de médias-là ou d'art se passe beaucoup, beaucoup sur le web. Comme quoi les outils changent, oui, les canaux de diffusion changent, mais l'être humain est toujours à la recherche de la même chose. Mon nom est Sylvain Grandmaison et vous écoutez Le Québec en balado-diffusion.
aboutir Champs-Élysées, Tour de France, Tour de France.
Les fins connaisseurs de musique électronique old school auront reconnu le groupe allemand Kraftwerk dans la version justement en allemand de cette chanson-là qui est Tour de France. Vous avez entendu, vous l'avez peut-être reconnu. J'ai réussi à la retrouver sur YouTube en fait. Moi, je l'ai eu dans les années 80, je me rappelle. J'avais acheté ça chez mon disquaire et c'était vraiment un des premiers albums que je me suis acheté moi-même en cassette en plus. Et puis, ben voilà, je l'ai eu en version allemande. Je n'ai aucune idée pourquoi. Peut-être que mon disquaire avait eu ça en importation. Je connaissais la chanson, c'était un mini-album de quelques chansons, quelques versions comme ça. Et ça, c'est la version courte. Et ce qui est drôle, c'est que ben moi, quand je l'ai entendu plus tard, soit à la radio ou quand je l'ai acheté sur iTunes dans les années 2000, évidemment, je connaissais pas ou peu les paroles en français. Je connaissais les paroles en allemand. Quoique, bon, mon allemand, je ne connais pas vraiment l'allemand. Et vous pouvez vous imaginer l'allemand d'un petit garçon de 8-10 ans qui essaie de dire « Etappenzil Champs-Élysées » et dit « Alpenons et Pyrénées ». Oui, c'est ça. Fait que moi, c'était ça que j'avais dans ma tête quand j'entendais cette chanson-là. Quand j'étais tout jeune, j'ai égaré la cassette. Malheureusement, je serais très, très content de la retrouver. Peut-être si je fouille eBay un jour, je la retrouverai. Il y en a un, bien sûr. Oui, vous le savez, c'est un carburant de la semaine. Écoutez, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de podcast. Il me semble que je dis ça à tous les épisodes, mais là, oui, c'est vrai. Ça fait pas un an, mais ça fait très, très, très longtemps. Donc, ça vaut la peine de déboucher une très bonne bière. C'est pas une bière québécoise. C'est une bière française que je vais déboucher. C'est une très grosse bière. Attendez un peu. Hop, OK. Et c'est une bière qui a une capsule en plastique et aussi, attendez un peu, une tige en métal recourbée sous le goulot et un bouchon de liège standard. Pas un bouchon qu'on peut faire sauter comme une bouteille de champagne. Il faut vraiment prendre un limonadier et la tourner et déboucher ça. Donc, c'est ce que je fais en ce moment. C'est quoi? C'est une Trois-Monts Grande Réserve de la brasserie Saint-Sylvestre. J'aime bien cette Cette brasserie-là, ça faisait très longtemps que je n'avais pas acheté. Et ils en vendent à mon épicerie. Donc, je vais vous ouvrir ça. Oh, je ne sais pas si vous avez entendu le pop, mais ça a popé solide. Et oui, c'est une bière ambrée de fermentation haute qui fait 750 ml à 10% d'alcool. Je vais verser ça. J'en mettrai pas trop. Et soyez sûr, je ne boirai pas tout ça durant l'émission. Je ne serai pas capable à finir. Oui. Donc, c'est une bière ambrée, mais quand même pas si ambrée que ça. Elle est un petit peu rousselée, je dirais. Elle ressemble à une bière, bon, même couleur à peu près qu'une pale ale. On voit quand même à travers. Elle a des petites bulles fines, tu sais, ce que j'aime de cette bière-là, entre autres. Je suis plus habitué à la Trois-Monts standard, qui est plus une bière blonde. Celle-là est plus ambrée. Je vais la sentir. C'est très, très floral, fruité et légèrement, ça sent un petit peu skunky, ça sent un petit peu légèrement la moufette comme certaines bières européennes. Oh, c'est assez rond en bouche. Ce qui est surprenant, c'est qu'on ne goûte pas tant que ça l'alcool. Il y a quand même pas mal de sucre. Oh, et ça se laisse boire, je vous dis. Si vous mettez la main là-dessus, je vous la conseille, c'est sûr. Celle-là, la dernière fois que je l'ai bu, ça fait quelques années. Je ne me rappelais pas exactement comment c'était. Et ce que je trouve un peu bizarre à mon épicerie métro près de chez moi, c'est que, bon, il y a des bières comme ça, Trois-Monts, Grande Réserve, spéciale, importée d'Europe, moins chères que des bières québécoises de qualité similaire ou de qualité inférieure. Et je ne comprends pas. Oui, peut-être les brasseries québécoises sont peut-être un peu plus petites, tout ça. Mais je ne comprends pas qu'avec justement le transport, tout ça, les frais de douane, qu'on paye ces bières-là moins cher que des bières québécoises. C'est un non-sens, à mon avis. Donc, voilà pour ça. Oui, je vais vous parler un peu de médias sociaux. Ben, une chose, ça arrive de temps en temps, on se fait inviter bon, à des événements, des lancements, quand on est actif sur les médias sociaux. des petits goodies aussi. Et il y a un truc que ça faisait longtemps, le genre de truc que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas fait offrir. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, de me faire prêter une voiture. Et on m'a offert de me prêter une voiture Cadillac ATS pour 3 jours. Pourquoi on a décidé de me prêter ça? Ben, c'est parce que oui, je suis inscrit à Clout. Mon score sur Clout dépasse les 55 points. C'était le prérequis pour pouvoir avoir droit à ça. Il fallait aussi soit vivre, soit travailler dans la région de Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord. Donc, il fallait ça aussi. Donc, je réponds à toutes ces conditions. Et puis, ben, en février, ils vont venir me porter un vendredi matin cette voiture-là et venir la chercher après le souper un dimanche soir. Donc, j'ai quand même hâte d'essayer. Faut dire que malgré tout, malgré mon côté, parfois, j'aime faire attention à l'environnement, je recycle tout, etc. J'ai une voiture qui ne consomme pas beaucoup d'essence. Ben, veux pas, je suis un gars et j'aime ça brûler du gaz, comme on dit, c'est-à-dire les machines à moteur, tout ça. Et essayer une nouvelle voiture, c'est toujours un plaisir pour moi. Et en fait, essayer n'importe quel véhicule à moteur, même un tracteur à pelouse, j'ai du fun à faire ça. Donc, voilà pour ça. Je vous donnerai des nouvelles lorsque j'aurai fait l'essai. Il y a plein de choses qui se passent pour moi. J'enseigne toujours en ce moment, quoique je réfléchis là-dessus. Je ne sais pas si je vais continuer à enseigner parce que je suis de plus en plus occupé avec des projets avec ma compagnie Phono, des projets de branding, des projets de médias sociaux, des projets de web. Oui, des projets, il y en a beaucoup, j'en ai beaucoup à réaliser, et surtout après Noël, j'en aurai encore plus. Je m'adjoins de collaborateurs parce que les projets que je vais chercher maintenant, ben c'est sûr que c'est des projets de plus grande envergure, donc je dois m'entourer. Il y a des fois des projets où est-ce que, bon, je dois avoir 4-5 pigistes autour de moi pour les réaliser. Donc, c'est quand même intéressant, des très, très beaux mandats que malheureusement, je ne peux pas parler. J'ai hâte de pouvoir en parler de certains de ces mandats-là parce que on crée quelque chose de totalement neuf. Donc, c'est très, 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 très stimulant. Et lorsque je pourrai, bien évidemment, je vais vous en reparler. Vous pouvez en être sûr. Je vous disais tout à l'heure que j'aime les machines, j'aime essayer toutes sortes de trucs. Et j'habite en campagne, dans la deuxième couronne qu'on appelle, donc je ne suis pas directement sur la rive sud, je suis un petit peu plus loin. Ce que pour moi c'est préférable, c'est vraiment la campagne, près de la rivière, tout ça. C'est un endroit absolument charmant, vieille maison, tout ça. J'ai un terrain. Je dois ramasser les feuilles, tondre un peu, oui, mais ramasser les feuilles, et c'est une corvée interminable. Par exemple, à l'automne, 240 sacs, c'est impossible de faire du compost avec ça. Là. Il y en a simplement trop. Donc, ma ville là, ramasse tout ça justement pour faire du compost. Normalement, une année normale, c'est entre 200 et 250 sacs orange, des gros sacs là, à feuilles. Et c'est très, très long à ramasser. C'est à peu près un mois à toutes les fins de semaine. Donc, j'ai réglé le problème. J'ai acheté un tracteur John Deere pour faire la pelouse et avec un système de ramassage en arrière. Donc, deux bacs dans lesquels je mets mes sacs orange. Ça se remplit quand je passe la tondeuse. Je n'ai qu'à les nouer, les mettre sur le bord de la rue pour les feuilles. Donc, j'avais raclé une fin de semaine et ce que j'aurais fait normalement en trois autres fins de semaine, je l'ai fait en une fin de semaine, même pas une fin de semaine complète. Donc, oui, ça sauve la vie. J'ai même acheté un souffleur pour aller là-dessus. Écoutez, il y a 2 ans, j'étais plutôt un habitant de l'île de Montréal, très, très technophile. Maintenant, je suis toujours aussi technophile, je n'habite plus à Montréal et j'ai un sapré souffleur. Je vais vous mettre de la musique pour être toujours un peu dans l'esprit old school. Moi, j'aimais bien le rap, pas nécessairement le hip-hop, là, mais le rap old school des années 80. Début 90. Et ben j'aimais beaucoup les Beastie Boys, évidemment. Vous savez probablement qu'en mai dernier, Adam Yonge, MCA des Beastie Boys, est décédé. Évidemment, quand on voit une de ses idoles d'adolescence mourir, ça fait un petit pincement. Malheureusement. Et j'ai pas eu la chance de vous en parler. Je pense que le dernier podcast que j'ai fait, c'est au mois d'avril. Donc, c'est pour faire un petit clin d'œil aux Beastie Boys. Il y a une de mes chansons préférées et j'adorais beaucoup, beaucoup la vidéo de cette chanson « Hey Ladies ».
Hits than Zara, Hara, oh. Tom Cruise, Hey, the fucking brother.
Oh oui, un très très grand classique des années 80 du hip-hop. À la belle époque, oui. Je vais vous parler de podcasting pour à peu près le reste de l'émission. Donc si ça vous intéresse pas, le podcasting, quoique ça me surprendrait peut-être si vous écoutez ça. Et oui, il y a des nouveaux podcasts à ajouter. Ça fait un petit bout de temps que j'ai reçu ces informations-là et j'ai pas eu la chance de vous les partager. Donc, première chose, premier podcast Objectif numérique qui est produit à Montréal depuis avril 2012, donc depuis à peu près la dernière fois que j'ai fait une émission. C'est animé par Christian, François, Stéphane et ils le font une fois par mois. C'est un podcast qui traite de photographie et de tout ce qui s'y rattache et il vise les 15 à 75 ans, qui est un petit peu large peut-être comme public. Je vous lis la description qu'ils m'ont envoyée. Nous partageons notre passion en expliquant les bases de la photographie dans un langage clair et simple. Trucs, conseils, critiques d'appareils, objectifs et accessoires, tout y passe. Et vous pouvez retrouver cette émission à l'adresse objectifnumérique.com, tout simplement. Il y a aussi le podcast En direct de nulle part qui est produit à Montréal depuis 1996, évidemment sous forme de podcast depuis moins longtemps que ça. C'est enregistré de façon hebdomadaire et on y parle d'actualité, de politique et d'humour. On vise les 25-55 ans et je vous lis la description qu'ils en font. En direct de nulle part, la revue de l'actualité déjantée se veut d'abord une émission axée sur le propos et la discussion dans une ambiance festive et intempestive. L'émission aborde les thèmes de l'actualité, les médias, la politique, les sports extrêmes et la culture underground, dans un splendide cocktail unique en son genre, combinant humour corrosif, musique explosive et débat intense. C'était toute une longue phrase, ça, oui, mesdames et messieurs. Chaque vendredi, nous te proposons un voyage à bord de notre Flobe Truck, converti en studio Nowhere Satellite, un lieu universel d'échange et de débat où il fait bon brasser les tabous. Et vous pouvez écouter tout ça à eddnp.net pour en direct de nulle part.net, évidemment. Il y a l'application podcasting d'Apple qui a été sortie il y a quelques mois sur plateforme iOS. Et je dois dire que j'ai des opinions partagées là-dessus. Je trouve ça un peu dommage de sortir le podcasting de iTunes parce que de l'application iTunes de iOS parce que je pense que ça peut être plus rebutant, on est obligé de l'installer, tout ça. Donc, ça ne favorise pas la découverte des podcasts de la part des gens. Première chose. Deuxième chose, au niveau de l'interface, ce qui est intéressant, c'est que bon, qu'on peut voir sous forme de petites vignettes, donc sous forme de mosaïque. Ça, c'est intéressant. Par contre, lorsqu'on fait jouer, on a une genre de fausse interface de enregistreur à ruban. Et pour avancer puis reculer, c'est une genre de petite aiguille qui nous montre où est-ce qu'on est rendu. Et donc, c'est pas très pratique, c'est pas très précis, c'est pas facile à opérer. Un avantage de cette application-là, c'est que maintenant, ben oui, on peut s'abonner directement. On peut faire la découverte de podcasts à l'intérieur de l'application. Ça, c'est super bien. Ça m'a permis moi-même de découvrir des nouveaux podcasts à l'intérieur de ça. J'ai fouillé un tout petit peu. L'autre chose aussi, c'est que mon podcast est à l'intérieur de ça. Si on cherche dans technologie sous podcasting, il est là dans les podcasts qui sont proposés. Donc, merci à Apple, ça fait toujours plaisir quand notre podcast a un tout petit peu de visibilité. Par contre, ce qu'on peut faire aussi, c'est que lorsqu'on est abonné, si on a un forfait de données, c'est qu'on n'a pas besoin de télécharger les épisodes pour pouvoir les écouter, on peut les écouter un peu comme à distance. Ça, c'est quand même assez bien. Le lien entre les abonnements sur la plateforme iOS et la plateforme, justement, iTunes, l'application qui est sur notre ordinateur, ne se fait pas nécessairement, c'est pas transparent. L'application aussi a des bugs. Si on fait reculer, il y a quand même un bouton pour reculer. Je crois que c'est 10 secondes et d'avancer de 30 secondes. Ça bug un peu. L'application plante aussi, malheureusement. Quand on se promène et qu'on n'a pas un accès Wi-Fi, on est sur la 3G. Si vous faites beaucoup de routes et que vous écoutez des podcasts comme ça, distants, sans les avoir téléchargés préalablement, ça prend beaucoup de bandes passantes. Vous pouvez vous imaginer. Moi, j'ai réussi à buster mon forfait de données, qui est pourtant très généreux, il y a quelques mois. En fait, j'ai écouté beaucoup de podcasts comme ça. J'avais mis tous mes podcasts de cette façon-là. Donc, écoute via les ondes. Et puis, l'autre chose, c'est que j'avais peut-être écouté une couple d'épisodes d'émissions de télé, donc de la vidéo aussi. Mais ça a fait que j'ai réussi à dépenser, à utiliser plus de 6 gigs. Je pense que à chaque fois, si par exemple, on a ouvert l'application, on est en train d'écouter un podcast qui dure une heure, le podcast se load, se télécharge entièrement pour être disponible à l'écoute. On quitte et quand on revient, ça se recharge parce que je ne vois pas comment j'ai pu autrement utiliser les 6 gigs au complet. Donc, c'est une application intéressante qui a des fonctionnalités intéressantes aussi qui permet la découverte de podcasts. Ça isole malheureusement le podcasting. Il y a des bugs, tout ça. Donc, je suis très, très, très partagé sur cette application-là et que j'espère s'améliorera au fil du temps. Oui, il y a aussi plus récemment le iTunes 11 qui est sorti sur Apple. En général, oui, c'est le bon vieux iTunes. On a amélioré un peu visuellement ou on a plutôt changé visuellement les choses à l'intérieur de ça. L'interface en elle-même, le contour, c'est mieux. Mais pour ce qui est des listes de chansons, tout ça, c'est un peu plus difficile à naviguer. Par défaut, on perd toutes nos préférences, donc il faut aller reconfigurer. Par défaut, la façon que l'information nous est présentée maintenant, oui, c'est par icône et il y a des menus déroulants et il faut cliquer. C'est complexe pour absolument rien. C'est une des rares fois où est-ce que j'ai trouvé que l'application iTunes ne s'est pas améliorée au niveau fonctionnalité en général, ça s'est détérioré. Certains diront que on commence à sentir l'absence de Steve Jobs. Je me dis que peut-être que oui, s'il avait été là pour dire à son équipe « it sucks », ça aurait peut-être un peu fouetté les équipes. Quoique, moi, je ne suis pas sûr que ce soit complètement désintéressé comme stratégie, dans le sens que l'interface par défaut met beaucoup l'emphase sur le iTunes Store. Donc, on veut vendre, on veut vendre, on veut toujours vendre. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a isolé la portion podcasting, justement pour garder dans iTunes tout ce qui est contenu achetable qui rapporte des sous à Apple. Donc, moi, je trouve, d'un côté, oui, le podcasting est un peu prisonnier de Apple en ce moment et je trouve que il commence un peu à étirer l'élastique pour aller chercher des sous dans les poches des gens et c'est très, très, très dommage parce que je vois de plus en plus de gens qui étaient des convertis et des conquis par les technologies Apple se réorienter vers des plateformes un petit peu plus ouvertes où est-ce qu'on ne demande pas de payer 99 sous à la moindre occasion. Donc, je dis moins 2 pour nos amis de chez Apple et j'espère que ça va s'améliorer avec le temps. Je vais vous parler d'une petite application qui s'appelle Boss Jock Studio. Boss Jock Studio, c'est une application de podcasting qui a été faite, je ne vais pas dire de conneries, je pense par un ancien de chez Libsyn, si ma mémoire est bonne. Et c'est vraiment la première vraie bonne application dédiée au podcasting qui a été faite sur plateforme iOS. Et c'est surprenant parce que parce que ça fait quand même longtemps et c'est une plateforme qui a quand même beaucoup de potentiel. Et le iPhone, par exemple, a un micro, on a un micro sur les écouteurs, donc ça permet de faire quand même plein de choses. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on a ce qu'on appelle des sound cards, c'est-à-dire qu'on peut mettre nos musiques d'introduction, nos sons de transition et les chansons qu'on fait jouer et programmer des boutons pour que, simplement en cliquant, ça se mette à jouer. Il y a un bouton aussi micro, donc on pèse dessus pour commencer à parler. On se sert du micro, soit du téléphone en dessous, qui n'est pas nécessairement très très bon. On peut se servir aussi du micro qui vient avec les écouteurs, qui donne un meilleur résultat selon les tests que j'ai faits. Sinon, il y a des adaptateurs pour mettre des micros externes. Et là, vraiment, bien, la qualité est à son maximum. On a à peu près la même qualité que ce que je suis en train de vous faire maintenant. Je pourrais aller chercher la même qualité grâce à cette petite application-là à l'intérieur du iPhone. Comment ça fonctionne en réalité, c'est que on appuie sur le bouton « Record » et ça se met à enregistrer. Et là, on appuie sur le bouton micro pour pouvoir parler. Et après ça, bien, on peut désactiver le micro. On peut aussi choisir de cliquer pour faire jouer une chanson. Là, quand la chanson va jouer, bien, c'est sûr que normalement, on ne parle pas. Mais si on se met à parler, le son de la chanson va automatiquement baisser un tout petit peu. Ce qui est assez efficace. Donc, c'est vraiment une application assez professionnelle, simple. Mais assez professionnel. Avec les tests que j'ai faits, j'ai réussi à la faire bugger. Il faut faire certaines choses. Moi, je faisais des tests. J'avais démarré une chanson. Je m'étais mis à parler dans le micro et j'ai essayé en même temps que la chanson jouait, que j'enregistrais avec le micro par-dessus et que le son de la chanson était baissé, de jouer avec le volume du micro de façon dynamique en même temps. Je pense que ce n'est pas une bonne chose à faire. Ça fait toujours planter l'application. Donc, il ne faut pas faire ça, c'est sûr. Il y a toutes sortes de paramètres qu'on peut ajuster. Justement, ce qu'on appelle le docking, c'est-à-dire de combien que la chanson va baisser lorsqu'on va parler. Il y a attack et release. Vous savez, ça, ça sert pour un peu atténuer le son du micro lorsqu'on ne parle pas. Donc, c'est assez pratique. Et il y a aussi une option de fading pour, si on fait jouer deux chansons, une à la suite de l'autre, il y aura une transition douce et on peut ajouter du nombre de secondes qu'on veut pour les transitions. Il y a aussi un low-cut filter qui évite les sons un peu sourds. Il y a ce qu'on appelle un buffer. Si on le met à high, ben oui, la qualité va être meilleure, tout ça, mais évidemment, ça va utiliser beaucoup plus le processeur de l'appareil. C'est sûr que si on a un appareil moins performant que le iPhone 4, je pense qu'on risque d'avoir des petits problèmes. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait avec nos enregistrements? Dans Recordings, ils sont là, puis l'affaire, c'est qu'on peut se les envoyer, les transférer. Contrairement aux autres applications audio sur iOS, on n'a pas nécessairement besoin de les brancher puis aller les chercher via iTunes sur l'ordinateur. Ce qu'on peut faire, oui, on peut les envoyer via courriel, mais la meilleure chose, c'est de les envoyer sur FTP. Et ça, c'est assez génial. Si on a justement un service d'hébergement de fichiers audio pour notre podcast qui fonctionne en FTP, on peut uploader, comme on dit, on peut envoyer notre fichier et ça va se mettre tout seul sur le FTP. Et si on programme justement nos applications, nos plateformes de podcasting, on peut absolument produire un podcast et le mettre en ligne directement à partir de notre appareil si on le veut. C'est sûr que c'est peut-être moins convivial que sur un ordinateur, mais on peut absolument le faire au complet. Ça, c'est très génial. Donc, ceux qui voudraient essayer cette application-là, n'est pas donnée. Elle est 9,99 $. Sauf que si vous avez déjà un téléphone à Apple, vous voulez essayer le podcasting, peut-être que c'est une bonne façon de l'essayer à peu de frais. Vous n'avez pas besoin de vous acheter beaucoup d'équipement, un enregistreur numérique à 400$ puis un micro à 600$ comme moi j'ai fait. En fait, vous pouvez y aller tout doucement avec cette application-là pour essayer. Après ça, vous pourrez ajouter un micro. Mais ceci dit, avec cette application-là, tout ce que vous avez besoin autre que le téléphone et l'application, ben, c'est un meilleur micro. Donc, c'est assez génial. Des fois, je pense même m'acheter une petite interface pour le iPhone, justement pour enregistrer avec ça. Donc, avoir un setup un petit peu moins lourd, ça ferait du bien, justement, à avoir ça dans mon setup. Comme dernier sujet, je vais vous parler de la possible disparition de FeedBurner. Je vous en parle, puis en même temps, je ne suis pas allé vérifier ces dernières semaines, mais il y a eu des grosses rumeurs de disparition de FeedBurner, entre autres parce que les domaines, je crois, japonais, les noms de domaine japonais de FeedBurner n'ont pas été renouvelés. C'est un outil qui a été un petit peu laissé à l'abandon, comme bien des choses chez Google. On achète un outil qui est hautement populaire et on le laisse mourir en l'améliorant pas, tout simplement. Et ça, c'est très, très, très dommage. C'est sûr que ces dernières années, les fils RSS ou les outils pour les agrégateurs sont peut-être un peu moins populaires, mais FeedBurner est un outil extrêmement utile. Entre autres, oui, pour si on a un blog, on veut normaliser notre feed ou sans avoir à configurer plein de plugins WordPress, configurer toutes sortes d'options d'abonnement, tout ça, c'est très pratique. En même temps, ça normalise notre feed, notre fil RSS. En même temps, ça nous amène des statistiques à savoir combien de gens ont sollicité le feed par jour. Donc moi, c'est beaucoup aussi pour ça. Et ça permet d'avoir un feed très stable. Tellement stable que, en fait, l'adresse du feed qui est produit par FeedBurner, c'est celui que moi j'envoie à Apple. Et en fait, je pourrais changer de nom de domaine, changer d'hébergeur, tout ça. Le lien ne se briserait jamais entre le fil RSS de FeedBurner et iTunes. Et le contenu serait toujours disponible. Donc, c'est très intéressant, c'est très utile et ça évite des pépins avant d'utiliser FeedBurner ou sur des sites où est-ce que je ne l'ai pas utilisé. Mais des fois, il y avait des petits pépins avec le fil RSS, puis là, ben, il y avait des coupures, ça faisait en sorte que les gens à l'autre bout, ils étaient comme plus ou moins encore abonnés. Il fallait qu'ils se désabonnent et qu'ils se réabonnent au fil RSS dans iTunes. Et avec FeedBurner, je n'ai plus jamais ces problèmes-là. C'est hyper, hyper stable. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Oui, il y a beaucoup de rumeurs. En même temps, les gens de chez Google n'ont pas donné beaucoup de suivi. Il y avait aussi un groupe de développeurs pour FeedBurner et un genre de forum de discussion. Ça a un peu disparu. Donc, tout ça, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec FeedBurner, malheureusement. Ça risque d'avoir son impact sur le podcasting. C'est sûr que moi, mon fil RSS passe par FeedBurner pour aller chez iTunes. Je n'ai pas le goût de perdre tous les abonnés du jour au lendemain. En même temps, vous allez me dire, tu fais 3 podcasts par année maintenant. Ça a peu d'influence. Oui, mais quand j'en produis un, je suis content la première journée, j'ai 400-500 téléchargements et au fil du temps, mais ça monte jusqu'à quelques milliers par épisode. Donc, oui, ça peut avoir un impact et si je décide éventuellement de produire un peu plus, j'aimerais ça que je ne perde pas mes abonnés. Donc, on verra qu'est-ce qui se passera avec FeedBurner et je vous tiendrai au courant des nouvelles, dépendamment de la façon que ça évoluera. C'est un peu ce qui met fin à ce Québec en balado diffusion. Si vous avez des commentaires, gênez-vous pas. Québecbalado@gmail.com, c'est encore valide. Vous pouvez m'écrire là. Vous pouvez aller écrire sur le site du podcast québecbalado.com, quoique c'est pas l'interface la plus utile, la plus simple à utiliser, je devrais dire, pour laisser des commentaires. Ce que j'aimerais beaucoup, beaucoup changer dans les prochains mois, ça serait vraiment une bonne chose. Je vais vous laisser avec la musique de Grandmaster Flash, que vous connaissez peut-être, peut-être pas. Peut-être qu'en entendant ce que je vais vous faire jouer, ça va vous dire quelque chose. C'est quelqu'un qui faisait des genres de mash-up dans les années 80. Aujourd'hui, c'est facile de faire des mash-up, c'est facile de faire des montages à partir de plein de chansons, faire du repiquage avec les outils électroniques qu'on a, mais reportons-nous dans les années 80. Fallait avoir beaucoup de talent, faire le ce qu'il faisait, faire le scratch comme il faisait, tout ça. Et ça faisait partie des chansons que j'avais. J'avais eu une compilation à un moment donné avec plusieurs hits du rap dans les années 80, justement sur mon radiocassette, mon magnifique radiocassette de l'époque. Puis c'était une des chansons, fait que j'ai beaucoup écouté ça en boucle à l'époque où j'avais à peu près finalement l'âge de mon fiston et que je faisais des cours de breakdancing. Donc, je vous laisse avec ça, c'est The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel à Québec en balado-diffusion. Je vous dis à très bientôt.
You say, one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that.
Bad Bad Freddy told me everybody slide. DJ is spinning, I said, my. Flash is back. Flash is fast, flash is cool, Francois,
c'est pas flash, ain't no do. He say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that.
Tell me a story.
Please tell me a story too.
You know.
know, I think I'll tell you the story of my life.
You tell me.
I want to hear too.
I was born in Anamoos, North Dakota, a long time ago, see? And now I'm lucky enough to be here with you.
Yeah, but what happened to the tree?
Adventures of